Merci de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission. Nous la consacrons aujourd'hui à la crise sociale que traverse le Centrafrique en ce moment. Comme vous le savez, pendant une semaine, Bangui, la capitale, a été dans le noir. Pas d'électricité pour cause. 5 pylônes de transport de câbles de haute tension ont été renversés par le vent violent vendredi 23 avril à Danzy, à 20 km sur la route de Boili. Le problème n'est pas entièrement résolu. Autre difficulté, le manque récurrent de l'eau potable dans certains endroits de Bangui. Cette pénurie d'eau potable perdure depuis plus d'une décennie. Les Centrafricains de l'intérieur du pays ne connaissent ni l'électricité ni l'eau potable car le système ne permet pas de desservir tout le pays. Question, que fait le gouvernement pour résoudre cette crise sociale dans le pays? Quelle est sa politique en matière d'eau et d'électricité pour la population? L'INERCA est-elle dépassée par le cours des événements? La SEDECA est-elle encore en mesure de fournir de l'eau potable aux Centrafricains? Faut-il privatiser l'INERCA et la SEDECA? Et pourquoi le gouvernement de Firmin Grébada communique si peu sur cette crise sociale? Voilà tant de questions qui feront l'objet du débat politique d'aujourd'hui. Eh bien, je reçois comme invité Monsieur Thierry Patient Bendima. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'énergie centrafricaine INERCA. Monsieur Christophe Priva Bilandumbi. Bonjour.
Bonjour.
Directeur général de la société de distribution d'eau en Centrafrique, SEDECA. Et Monsieur Joseph Bendunga. Bonjour.
Armando, bonjour.
Député de la Nation et membre de l'opposition démocratique en Centrafrique pour ce débat. Et M. Karl Blagué, bonjour.
Bonjour Armando.
Observateur de la vie sociopolitique de Centrafrique. Je suis Armando Nguindi pour vous mener à bon port ce débat politique de Radio Ndekeluka. Bonjour à toutes et à tous. Et surtout, bonne fête de travail. Nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Je rappelle que l'émission d'aujourd'hui est exceptionnelle car nous allons seulement vous poser, messieurs les directeurs généraux, des questions provenant de nos auditeurs et de vos consommateurs. Première question à vous, messieurs Thierry Patient Bendima. Où en sont les travaux de réhabilitation des 5 pylônes cassés?
Armando, comme vous l'avez relevé, c'est depuis vendredi dernier, surpassé 23, que nous avons connu des dégâts importants sur les lignes haute tension en provenance de Boili. Nos équipes se sont mobilisées et nous avons pu réparer actuellement 2 pylônes sur 5, ce qui nous a permis de remettre en service la ligne numéro 1. Il reste encore les 3 autres pylônes qui vont faire l'objet de la mobilisation des équipes à partir du début de semaine.
Donc ça veut dire que le problème est résolu à moitié?
Le problème est résolu à moitié parce qu'il y a une ligne qui est en service, mais l'autre n'est pas encore remis en service. Du fait aussi de la complexité des ouvrages qu'il y a sur la seconde ligne, donc cela prendra un peu plus de temps que pour la première.
Donc on peut estimer à ce jour, puisque vous avez remédié à ce problème que ce samedi, hein, dans les après-midi, et puis après aujourd'hui, on peut dire que nous connaissons déjà combien de pourcentage de cette reprise.
Avec cette réparation, on a restauré 65% des capacités hydroélectriques qui peuvent maintenant arriver sur notre réseau, en sachant que déjà depuis vendredi 23, la centrale thermique fonctionnait pour garantir un minimum de services dans les points très sensibles comme les hôpitaux, la communication et autres points importants de la ville. Donc aujourd'hui, on a 65% de l'hydroélectricité qu'on a remis sur le réseau pour compléter l'offre.
Je rappelle que nous avons aussi tenté en vain d'avoir quelqu'un du ministère du développement hydraulique et énergétique pour ce débat. Malheureusement, nous poursuivons. Quel est l'état des lieux de la SEDECA, M. Christophe Priva Bilandumbi?
Merci, Monsieur Amando. Je pense que lors de cette crise, certains quartiers étaient toujours sous le contrôle de la SEDECA. Donc, tous les quartiers qui sont en aval de la colline reçoivent régulièrement de l'eau. Donc nos limites régaliennes pendant cette période n'ont pas subi de dommages en tant que tel. Mais sans, c'était des quartiers qui sont situés en hauteur, ça veut dire que le 4e et le 8e arrondissement qui avaient sérieusement des difficultés. Et promptement, nous avons passé une interview sur certains zones de la place, entre autres la radio Guira, parce qu'on avait constaté qu'il y avait un gap de 20 kVA au bord du fleuve là-bas à combler rapidement pour que nous ayons la capacité de propulser l'eau en hauteur. Et c'est que ça a été fait, nous avons passé cette interview sur la radio Guira FM. Immédiatement, je pense que promptement, la MINUSCA a répondu en nous fournissant un générateur de 500 kVA. Ce qui a valu qu'avant-hier, vous avez vu qu'il y a au moins un peu d'eau dans les quartiers du Nord. Donc, à savoir Bouira, Gobong, Onalan, on a pu vraiment penser soigneusement les plaies de nos frères et sœurs qui se plaignaient dans cette zone. Je vous rappelle ici que nous privilégions beaucoup plus cette zone parce que dans cette zone-là, les difficultés sont dues au fait que les terrains là-bas sont tellement rocailleux, donc on ne pourrait pas réaliser des puits. Donc, nous sommes conscients et que s'il y a des choses à faire, nous devons nous battre à ce que nos frères qui sont dans cette zone-là puissent en avoir, si peu soit-elle, quelques gouttes d'eau qui pourraient en tout cas pousser à ce que les ménages puissent vivre dans une situation.
Mais effectivement, dans ce cas, cela semble qu'au niveau de la SODECA, vous faites le même travail que l'ENERCA, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs de délestage, je peux dire, de la distribution d'eau. Peut-être et aujourd'hui à Gobongo le matin, ce serait après demain, deux jours, trois jours que l'eau peut couler de robinet. Donc tout ça, est-ce que vous avez aussi vos systèmes de coupure?
Je pense quand même que je passe là, nous sommes en direct, certains consommateurs peuvent réagir. Nous avons hérité d'un réseau à petit gabarit, ici à Bangui. Souvenez-vous que ce réseau a été créé au lendemain de l'indépendance. Donc, effectivement, ce réseau, aujourd'hui, ne peut pas supporter 1 million de personnes. Ce réseau a été créé pour peut-être 300 000 ou 500 000 habitants qui étaient à Bangui. Et aujourd'hui, nous sommes à 1 million. Vous savez que plus le nombre des habitants augmente, plus le flux de distribution diminue parce que les gens interceptent l'eau.
Et ça, c'est la loi de demande de l'offre.
Voilà. Plus les gens interceptent l'eau, plus il n'y a pas de pression dans le réseau, donc le réseau ne peut pas aller loin. Donc c'est pour cela, la SODECA, pour harmoniser un peu les choses, a mis en place ce qu'on appelle une plage horaire de pompage. Cette plage horaire de pompage concerne beaucoup plus les quartiers du Nord. Ça veut dire que vous constatez que le jour, si on voulait faire remonter l'eau là-bas et qu'il y a tellement de consommation sur le réseau, on ne pourrait pas le faire. Donc c'est pour cela, nous, on prend des dispositions la nuit, puisqu'il n'y a pas assez de consommation sur le réseau, de stocker l'eau, parce que nous avons des bâches de 5000 mètres cubes là-bas. Donc, il va falloir les remplir la nuit. Donc, on fait le trou plein la nuit et le jour maintenant, on ouvre le robinet pour que gravitairement, le centre africain Lambda soit servi. Et c'est ce que nous faisons. Donc, à 5 heures déjà, vers le secteur.
Et c'est par secteur.
Oui, dans tout le secteur nord, ça veut dire que Gobongo, Bouirab, en allant, déjà à 5 heures, ils ont de l'eau au robinet. Mais ce qui est là, que...
C'est une heure du temps, 30 minutes.
Non, pas une heure de temps. L'eau, on gère généralement, c'est de 5 heures jusqu'à 13 heures, dans cette zone-là. Donc
ça veut dire que si vous voulez desservir ces zones du nord, ça veut dire que vers sud, vers le centre, ils sont privés alors?
Non, ils ne sont pas privés. Ça veut dire que eux, vers le centre ici, le réseau est gravitaire. Donc, on n'a pas besoin de force motrice pour pousser l'eau. Nous, on stocke. Si vous voyez, non loin du palais, on a deux grands réservoirs à ce niveau. Nous, gravitairement, ces réservoirs-là sont remplis. Et on ouvre toute la journée. Vous allez voir que les quartiers du 1er arrondissement, 2e arrondissement, 3e arrondissement, une partie du 5e arrondissement et 6e arrondissement sont sous le contrôle. Dans ceux-là, dans la journée, ils ont de l'eau parce que c'est gravitaire. Mais là où on a besoin d'une force motrice, c'est le 7e arrondissement, 4e arrondissement, 8e arrondissement parce que les quartiers sont un peu situés en hauteur. D'où nécessité maintenant de faire des efforts et propulser l'eau. Avant, la SODECA éprouvait des difficultés parce que...
Quelques secondes.
Oui, SODECA éprouvait des difficultés parce que les électropompes étaient tellement vétustes que nous ne pourrions pas faire le travail correctement.
Mais effectivement,
aujourd'hui, aujourd'hui, la Banque mondiale a doté la SODECA de 13 nouvelles électropompes sophistiquées. Vous avez constaté que pendant la saison sèche de cette année, les gens n'ont pas senti. Nous avons maîtrisé la situation, d'où nous avons continué
mais à respecter. On va y revenir parce que si vous dites que les gens n'ont pas senti, mais nous savons qu'il y a des plaintes encore dans les quartiers. Rapidement, vers vous, monsieur Thierry Patient-Bendimont, apparemment, il y a une similitude entre la SODECA et l'ENERCA. On a parlé de la vétusté des installations de l'ENERCA. Est-ce que aussi c'est le même cas chez vous?
Il y a une similitude parce que nous sommes tous des exploitants de réseau. Le réseau de distribution d'eau qui distribue du fluide qui est l'eau et le réseau de distribution d'électricité qui distribue un signal électrique. Comme l'a relevé le DG de SODECA, ENERCA aussi fait face à ces vétustés et ces écroulements de pylônes. Ce sont des pylônes qui sont en service pour la ligne numéro 1 depuis les années 50. Ça a été construit presque par le colon et pour la ligne numéro 2 depuis les années 76. Donc nous avons des équipements qui sont en fin de vie physique. C'est des équipements qui s'amortissent après 30-40 ans. On est obligé de les exploiter à plus de 70 ans du fait d'absence d'investissement de renouvellement. Globalement, cette réalité concerne toutes les entreprises en charge du réseau. Et ce que le DG de Sodeca explique est dû effectivement au dépassement de capacité, parce qu'il n'y a pas eu d'investissement pour intégrer l'évolution de la demande et aussi à la vétusté de ce qui existe.
Voilà, ce sont des installations qui datent. Monsieur Joseph Bindunga, comment ressentez-vous cette pénurie d'eau potable et le manque d'électricité dans votre secteur? Quelques minutes à vous, monsieur.
C'est la situation générale, c'est la question de l'offre et de la demande. Ce sont deux unités de production. L'ENERCA produit l'électricité, le distribue. La Sodeca pompe l'eau, la traite et la met à la disposition des consommateurs. Et comme ils l'ont bien dit, d'abord, il y a trois problèmes pour ces deux structures-là. Un, c'est du matériel qui a été créé pendant la période coloniale. C'était une petite population. Et petit à petit, on a essayé de greffer, de faire quelques petits bricolages. Donc, ensuite, il y a la vétusté du matériel, l'usure du matériel et la vétusté du matériel. Trois, l'élargissement de la ville de Bangui. C'est une ville qui a été construite en désordre.
La démographie.
La démographie aussi en désordre, à telle enseigne que le ministère chargé de l'énergie, c'est le même ministère, l'eau et l'énergie. Donc, ce ministère-là ne s'est pas assumé. Moi, je commencerai à taper dur sur le département parce que c'est au ministère de s'assumer, de faire ce travail. Et au fur et à mesure que la population va s'accroître, au fur et à mesure que la ville va s'étendre, le réseau de distribution, tant de l'énergie que de l'eau, date des années wo-wo. Il faut ce jargon-là pour le qualifier. On a tenté de faire beaucoup de rattrapage, mais on n'a pas tenu compte de la réalité. Malheureusement, en Centrafrique, on ne prévoit pas, mais on cherche à colmater les brèches. C'est à l'image même des rues de la capitale et des routes des provinces. Donc, grosso modo, ces deux DG que j'ai devant moi, je peux dire que mes frères, veuillez m'excuser le terme, mais vous êtes des pauvres types qui êtes exposés parce que vraiment, vous avez le ministère qui ne s'assume pas. Et vous, votre position en tant que société d'État, d'avoir toute la latitude de mettre en œuvre vos politiques, c'est un peu difficile parce qu'il y a le côté État qui doit peser plus. Et malheureusement, ceux qui viennent à la tête du pays n'ont qu'un souci, se faire de l'argent, nommer leurs collaborateurs, leurs proches dans ces entreprises, le conseil d'administration, surtout les conseils d'administration qui ne foutent rien et qui sont là juste pour bouffer. Donc, par rapport aux quartiers dans lesquels j'habite, d'abord nous, c'est des quartiers nouveaux. Nous avons un ancien quartier, le quartier Le Plateau, mais l'éloignement, tout et tout, on est les derniers soucis. C'est comme tout le secteur Bimbo. L'avantage de Bimbo Centre, c'est qu'ils ont la brasserie Mokaf là-bas. Ils ont l'hôpital Maman Domitien là-bas, mais quant aux autres, disons, secteurs périphériques de la ville de Bangui, nous sommes les enfants malheureux, tant de l'énergie électrique que de l'eau. Et nous, là-bas, nous ne voyons pas l'eau. J'ai entendu le dire.
Oui, quelques secondes, oui.
Oui, monsieur le DG de...
Monsieur Bilandoumbi.
Oui, dire que des forages, tout et tout. Non, je pense que les forages ne résolvent pas le problème de l'eau. L'eau, c'est un denrée très sensible. On n'a pas besoin de manipuler de l'eau. Quand vous faites un forage, les gens viennent pomper l'eau. L'eau va dans les bidons. Les bidons peuvent être souillés. On trimballe l'eau. Non, l'eau doit sortir du robinet et directement dans le verre ou dans la bouteille d'eau ou bien sous la douche que d'être trimballée. Et cette politique de forer des puits dans la ville de Bangui, ce n'est pas la solution et que le département en charge de l'eau doit s'assumer. Quant à l'ENERCA, la Sodeca comme l'ENERCA, la plus belle fille ne peut offrir que ce qu'elle a. Et ces entreprises-là sont dépassées. Donc, M. Armando, voilà. Je suis au regret de dire qu'aujourd'hui, personne ne se soucie des soucis élémentaires des Centrafricains que sont l'eau, l'électricité, et si on fait l'extension, les réseaux de communication, tant routière que téléphonique.
Rapidement avec vous, monsieur Karl Blaguet, comment évaluons, selon vous, la vie sociopolitique en République centrafricaine en ce temps de cette crise sociale que le pays continue de vivre?
Merci Armando. Je pense que si vous nous avez conviés autour de ce plateau, c'est par rapport à la récente crise de l'énergie. 5 pylônes au niveau de Danzy qui sont tombés. D'abord, j'aimerais faire preuve de compassion à toutes les personnes qui ont perdu des parents dans les hôpitaux pendant cette période d'absence d'électricité. J'ai été frappé par un témoignage d'un petit frère à un ami qui est en médecine et qui faisait un stage à l'hôpital communautaire. Il m'a dit, mon grand, nous avons fait accoucher des femmes avec des bougies pendant plusieurs jours. Il n'y avait pas de générateur. Des accouchements en pleine nuit avec des bougies. Donc, moi, je pense d'abord au niveau des responsabilités. Il y a un partage de responsabilités. Aucune tête n'est tombée. Le ministre même de l'énergie n'a même pas pris le soin de se diriger vers les hôpitaux. Parce que c'est là où il y a eu plus de morts, plus de victimes. Il a seulement fait un voyage touristique à Danzy et autres. Je serais à la place du chef de l'État, je l'aurais démis de ses fonctions. Vous avez invité le directeur de cabinet du département. Il a esquivé l'invitation. C'est extrêmement grave. Je pense qu'il faudrait que des responsabilités soient assumées. Il faudrait que le chef de l'État prenne ses responsabilités. C'est extrêmement scandaleux. En plein 21e siècle. Et en plus, je reviens sur cette histoire de Boili 1, Boili 2. Je demanderai au DG de l'Enerca qui est là de nous simplifier. Récemment, il y avait eu les Chinois qui ont dit que non. Ils ont financé, ils ont augmenté le nombre de mégawatts. Et en quelques mois, toute la capitale serait alimentée. Mais c'est le sens contraire que nous vivons, Armando. J'espère que le directeur...
Déjà vous notez.
Je pense que je prends bonne note, mais ça fait partie des perspectives qu'on
abordera. Je poursuis donc. L'impact social est extrêmement grave. L'impact social est commercial aussi, économique aussi. Et sécuritaire. Nous sommes en période de, comment on appelle ça, état d'urgence et autres. Mais vous avez même des ministères stratégiques qui n'ont pas de générateurs, qui ne fonctionnent pas, même des ordinateurs sont éteints. Vous n'allez pas prendre un ordinateur stratégique, aller charger ça au quartier. Même Motorola de transmission, vous n'allez pas mettre ça au quartier. Peut-être dans certaines structures, peut-être au niveau de la gendarmerie ou autre, mais ce ne sont pas tous les ministères. Beaucoup de ministères ont été victimes. Et ce qui me met en colère, c'est que le gouvernement n'a pas de vision prospective. C'est-à-dire, quand on prend le pouvoir, on dit, voilà, l'Enerca attend tant de pylônes. Mais au cas où il y a un vent de plus de 500 000 km à l'heure, c'est un exemple, hein, et que tous les pylônes s'effondrent. Est-ce que nous avons du carburant? Est-ce que nous avons des générateurs de secours pour ne serait-ce que alimenter l'aéroport Bangui Poco, les institutions sécuritaires, les hôpitaux? Il n'y a pas de vision prospective. Et j'aurais aimé que ce fameux ministre de l'énergie soit là. Ce sont des directeurs généraux, ce sont les commis de l'État qui sont là, mais c'est au niveau politique.
Ils sont en même temps techniciens aussi. Et politiques.
Ils doivent rendre compte.
Si ça vous va, monsieur Karl Blague, pour ne pas vous couper, l'impact du manque d'électricité est très déplorable, comme vous l'avez dit, dans les hôpitaux. Cette situation a déjà occasionné des décès. Avant de poursuivre cette émission, je vous invite à écouter le reportage de Prudence Gisèle Hegué sur ce point.
Dès notre arrivée à 10h ici à l'hôpital de l'Amitié, nous écoutons des pleurs dans certains services. Sur place, nous assistons à l'évacuation d'au moins 4 corps des personnes placées sous oxygène qui viennent de décéder. Selon les parents des malades, l'insuffisance de l'énergie dans les services hospitaliers aggrave la situation des malades. Quelques-uns témoignent.
À Malada, on a assisté à plusieurs cas de décès ces derniers temps. Le générateur qui est là ne suffit pas pour alimenter tous les services de l'hôpital. Plusieurs malades meurent à cause de la chaleur. Ce matin même, 17 corps en état de décomposition sont sortis de la morgue. La situation des malade est vraiment critique sans électricité.
Après le centre hospitalier de l'Amitié, nous sommes à l'hôpital général. Ici, c'est le service de traitement dentaire. Le personnel soignant éprouve d'énormes difficultés à extraire et traiter les dents avariées. Yacinthe Azoukantia, dentiste au centre national hospitalier universitaire de Bangui, explique.
Tel que vous avez constaté, il y a une patiente qui est là sur le fauteuil, il n'y a pas d'électricité. Alors ce fauteuil marche avec de l'énergie. Lorsqu'on est sur une extraction difficile et qu'il n'y a pas de lumière et le fauteuil aussi ne fait pas de mouvement, on ne fait pas comment pour avoir une vision claire sur les dents traitées ou bien les dents enlevées. Parce que pour ce cas de figure, pour un patient peut craquer.
Pour Dr Jean Chrysostome Gaudi, directeur du complexe pédiatrique, ce problème d'électricité impacte négativement les finances.
Ça joue financièrement. Ce qu'on devait mettre dans les réactifs, par exemple, dans les médicaments, maintenant on va mettre dans le carburant. Voilà les répercussions. Et ça va être sur la qualité de nos soins. La conséquence est financière, qu'on prévoit l'argent nécessaire pour pouvoir mettre du carburant, mais que ça aille plus vite. Hein.
Cette panne technique sur les installations de l'Enerca intervient au moment où beaucoup de services publics ne disposent pas encore d'une autonomie énergétique.
Voilà, je vous remets la parole, monsieur Karl Blague, sur ce point. Vous venez d'évoquer, et puis après, nous l'avions présenté dans le reportage. Quelle est donc votre réaction rapidement sur ce point?
Une réaction de révolte. De révolte contre le département de l'énergie. Et j'aurais aimé que si le ministre de l'énergie avait une certaine décence, il aurait pu rendre son tablier, c'est-à-dire présenter sa démission. Il ne s'est même pas déplacé pour aller auprès des hôpitaux là où il y a eu ces drames-là. Il y a eu combien de cercueils ? Je ne suis pas loin de l'hôpital communautaire. Et j'ai vu en moins de 4 jours plusieurs cortèges funéraires. Du jamais vu. Alors j'ai posé certaines questions, on me dit non, peut-être au niveau du système de refroidissement de la morgue aussi. Il y a des problèmes, donc il fallait que les parents évacuent rapidement les corps. Au niveau de ceux qui ont des problèmes respiratoires, à l'intérieur de l'hôpital communautaire, d'autres personnes ont dit non, il y avait un groupe que MSF avait déposé, MSF a récupéré ça, non, ce n'est pas normal. Et qu'au niveau de la morgue, il y avait un groupe que le cardinal Nzapalenga et la défunte Nadia Beya avaient fait don. Mais c'est parti où ? Mais il n'y a pas l'entretien des installations. Je ne comprends pas. Moi, je suis révolté. Il faut vous mettre à la place de ceux qui ont perdu leurs parents à cause de ce problème. Et je pense que les responsabilités doivent être partagées et que des têtes doivent tomber.
Rapidement, oui, monsieur Joseph Bendunga, oui, sur ce point et sur le reportage que vous venez d'écouter.
Oui, le problème de l'eau et de l'électricité, et pour les hôpitaux, la responsabilité est partagée. Il y a aussi les directeurs généraux de ces hôpitaux.
Tout à fait.
Ils ont des groupes électrogènes qui sont là, qui ont la capacité de travailler, mais qu'ils n'ont pas entretenu. Mais vous n'allez pas dire que c'est le. Il y a la responsabilité des directeurs.
Et des fois même, ces groupes électrogènes n'ont pas la capacité d'alimenter tout le service, c'est ça.
Voilà. Donc, vous voyez, c'est que le problème, c'est un État failli, la République centrafricaine. Rien ne marche. Et je voulais demander à monsieur le DG. Et moi, quand je viens quelque part, j'essaie de voir là où ça va mal et j'essaie de faire des propositions. Quelles sont les propositions qui ont été faites et que le gouvernement a refusées? Parce que si vous ne nous dites rien, nous allons un peu nous retourner contre vous. Par exemple, lorsqu'on parle des pylônes qui tombent, les pylônes, c'est un assemblage
de cornières.
Mais les cornières, on peut en stocker. Pourquoi ne pas en stocker? Est-ce qu'il y en a en stock? Et si il y en a en stock? Et il y a aussi l'usure, il y a l'âge. Quand du matériel est dépassé, on le recycle, on le remplace. Et aussi, d'abord, quand on parle de l'électricité, il n'y a pas d'électricité. Quand on parle d'eau, il n'y a pas d'eau. C'est qu'on trafique avec l'électricité, on trafique avec l'eau. Ça, soyons sincères, parce que la démographie a explosé, la ville s'est étendue, le coût du matériel et l'incapacité du département. Je reviens encore sur le département parce que la pierre angulaire, c'est le ministère de l'énergie.
Monsieur Joseph Bendunga, oui. si vous me permettez, puisque vous avez posé 3 ou 4 questions, et monsieur Karl Blaguet, au directeur général de la Société centrafricaine de distribution d'eau, SEDECA, et de l'énergie centrafricaine, de répondre rapidement.
Et aussi, ce que font les conseils d'administration. Parce que les conseils d'administration sont là pour assister les DG avec leur équipe tech.
Voilà, et rapidement, tout ça, vous pouvez noter. Mais quelle est donc votre réaction, monsieur le directeur général?
Bon, je pense que si on revient sur ce reportage avec des cas de mort. Le reportage, comme je l'ai dit, c'est déplorable qu'on perde des compatriotes dans ces conditions. Personne ne peut se satisfaire de quelque chose qui se passe de cette manière. Mais aussi, c'est la réalité de notre pays. Il ne faut pas qu'on se cache derrière des mots. C'est la réalité de notre pays. Nous n'avons pas investi. Comment pouvons-nous avoir le matériel pour satisfaire ce niveau d'exigence de qualité? Et ça, ce n'est pas aujourd'hui. On a dit les derniers investissements remontent à 1976.
Et ça, c'est à l'époque de Jean Bédel Bokassa.
À l'époque de Jean Bédel. Après,
que font les autres présidents après?
C'est la question. Me posez une question à laquelle je ne peux pas répondre.
Puisque vous avez parlé de responsabilité.
Mais je pense qu'il faut que cela soit clair pour tout le monde. Si on peut s'énerver du matin au soir, mais ce n'est pas ça qui va apporter les réponses. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu d'investissement. Les investissements qui se mettent en place se font avec l'appui de nos partenaires qui, en fonction de leur disponibilité, nous accompagnent sur certains points, mais pas sur tous les points. Et ça, tout le monde est au courant de ce qui se met en place. Monsieur Karl a dit, un champ solaire était annoncé. Effectivement, le champ solaire a été annoncé, mais nous savons que la COVID a perturbé toute la planification de 2020. Peut-être que s'il n'y avait pas COVID, on n'en parlerait pas de ce problème maintenant parce qu'on aurait eu le matériel nécessaire pour faire la maintenance. Donc, c'est une situation déplorable, c'est une situation difficile, mais sachez que ces autorités, bon, aujourd'hui, ne sont pas là, ils ne pourront pas parler, on peut parler à leur place ou pas. Mais ce sont aussi des Centrafricains qui vivent dans ce pays, connaissent les difficultés que nous traversons et qui se battent avec les moyens qu'ils ont. Quand on dit que la RCA a eu plusieurs décennies de crise, quels sont les corollaires des crises? Les corollaires des crises, c'est ce que nous vivons. Quand il y a des crises, on ne mesure pas les conséquences maintenant.
Mais est-ce
c'est
que
dans deux ans, dans trois ans qu'on va voir ces crises, qu'est-ce qu'elles peuvent produire? Et ces crises ont retardé la mise en place des investissements. Le projet de la BAD Banque africaine de développement qui se déroule, était déjà là depuis les années 2012. Je pense qu'il y a certes nécessité d'expliquer aux compatriotes ce qui se passe, mais il y a aussi une prise de conscience collective qui est indispensable pour que nous parvenions à ne plus revivre ces choses dans le futur. Parce que ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est ce que les gens ont fait, mais qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui
mais rapidement, à travers les échanges pour parvenir à... Ah oui, M. Benega, vous réagissez parce que j'ai une quelques questions.
L'État a sa responsabilité, mais il y a aussi nous, les centrafricains. L'incivisme du centrafricain fait que tout ce qui est investissement public est systématiquement détruit.
Et ça, c'est la responsabilité des citoyens.
Des citoyens. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si le centrafricain se plaint, mais qui c'est qui va parfois déraciner ces pylônes ? Ce sont des gens, par exemple, je donne l'exemple de la Sodeca. On peut tirer bien sur ces entreprises, mais il y a la part du centrafricain lambda. Je vais vers Catin, mais tout le temps, il y a une conduite d'eau qui est ici, au carrefour kilomètre 5 Catin, qui est tout le temps coupée et les gens viennent se servir gratuitement. Il y a l'électricité. Je pense qu'il y a un sursaut centrafricain, j'appelle ça comme ça, que nous puissions dire que nous, centrafricains, nous nous faisons mal, nous nous faisons harakiri et que désormais, on devrait arrêter ça.
Mais rapidement, monsieur Benega, je vous retire la parole parce que selon le temps, je vous en prie, on va y revenir. Monsieur Benjima, sur le plan B, est-ce que votre institution dispose d'un plan B pour résoudre ce problème? Puisqu'on a vu une semaine, ça n'est assez trop pour
Le Bangui vit dans le noir. L'existence d'un plan B, c'est le déploiement des investissements en cours. Avant, quand on voit la répartition des puissances, toute la production vient de Boali. Au niveau de Bangui, on n'a pas de capacité pour suppléer à l'absence de la ligne. Et dans les choix d'investissement qui ont été faits par le gouvernement, aujourd'hui, on déploie des capacités tout autour de Bangui pour nous éviter d'être dépendant de la qualité de la ligne. Et ça,
mais vous voulez parler
malheureusement,
de Danzi et de Sakai, où les travaux n'ont pas encore commencé en tant que tel.
Non, à Sakai, les travaux ont commencé. Je pense que vous pouvez vous déplacer et voir que les travaux ont commencé à Sakai. À Danzi, l'entreprise est déjà sur le terrain pour démarrer ses travaux. Et ça, ce sont des investissements qui seront disponibles, comme l'a annoncé le chef de l'État, courant 2022. Et on a la centrale thermique de Bangui, dont les capacités sont renforcées. Et aujourd'hui, on sera à mesure, s'il y a ce type d'événement, dans un avenir proche, d'avoir des capacités localement pour satisfaire les besoins. Donc, qu'est-ce que des propositions ont été faites au gouvernement? Je pense que sur cette question, des propositions sont faites. Mais les investissements dans le secteur de l'énergie sont des investissements très capitalistiques. Et c'est ça qui est le vrai problème. Comment mobiliser 200 milliards, 300 milliards pour régler les questions? C'est ça la vraie question.
Oui, monsieur Kalblagé.
Quelques secondes, c'est tout juste pour poser une petite question au directeur général de l'ENERCA. Sur les réseaux sociaux et au niveau de certains médias, on parle d'un don russe de plusieurs générateurs. Est-ce que c'est vrai, vous confirmez? Est-ce que la Russie a fait don de plusieurs générateurs pour pallier justement à ce problème d'énergie?
À ce jour, sur nos installations, on n'a pas ces capacités.
Voilà, donc c'est ce que je voulais savoir parce que ces derniers temps...
Ces dons peuvent être faits d'abord au gouvernement pour procéder. On ne fait pas un don à une société. Dans le process, on fait un don à un gouvernement qui peut retrocéder ces dons aux entités.
Voilà, mais rapidement, à vous, monsieur le directeur général de la Sodeca, monsieur Belandombi, quel est le lien entre les délestages et la distribution irrégulière d'eau de la Sodeca dans le secteur? Est-ce que ces délestages ou bien ce problème d'électricité joue également sur la Sodeca?
Je tiens à relever que lorsque l'on parle aujourd'hui, il va falloir que nous faisons le lien entre les problèmes émergents et les problèmes de la première génération. Les problèmes de la première génération touchent ce qu'on appelle le faible accès à l'eau potable, la faiblesse du réseau d'assainissement, la dégradation du cadre de vie. Et les problèmes émergents touchent beaucoup plus l'insécurité, la création peut-être de mouvements, la création de séries de trucs de rébellion. Ça c'est des problèmes émergents. Aujourd'hui, tout l'argent de l'État part dans les problèmes émergents. Toute la préoccupation de l'État actuel part dans ce qu'on appelle les problèmes émergents. Ça ne date pas aujourd'hui, les problèmes émergents. Depuis que nous avons commencé à avoir des problèmes de coups d'État et autres, l'appareil de l'État aurait été effondré. Donc, quand vous faites maintenant le lien entre les problèmes émergents et vous faites le lien entre les problèmes émergents et les problèmes de la primaire, parce qu'il y a au moins des séries de problèmes. Maintenant, les problèmes émergents aujourd'hui qui ignorent que l'État mette beaucoup d'argent dans les problèmes émergents que le développement. Donc, En ce sens, on devait d'abord souligner que l'argent que l'État aujourd'hui met part beaucoup plus dans l'artillerie de la sécurité. Donc, les autres secteurs sont relayés pratiquement au deuxième ou troisième plan. Si vous convenez, vous pouvez convenir aussi avec moi. Donc, ça suppose que lorsqu'on parle de l'urgence, il y a aussi ce qu'on appelle les phases de relèvement. Les phases de relèvement, c'est des phases de transition entre l'urgence et le développement. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas encore abordé la phase de développement en tant que telle. Donc, les dons et autres formes de trucs que nous recevons en RCA, ça relève de l'urgence. Tout ce que nous faisons ici, ça relève de l'urgence. Aujourd'hui, à la SODECA, on a mis en place un système pour pallier à l'urgence. On a créé plus de 5000 branchements sociaux. Vous allez voir que tous les quartiers du 5e arrondissement, le quartier du 5e arrondissement, 3e arrondissement, dont l'honorable a fait mention ici, nous avons déjà en stock.
Et ça, c'est un don toujours.
C'est un don, oui. C'est un don lié pour pallier aux difficultés d'eau dans ce secteur parce que tout le système, tout le réseau a été saccagé dans ce sens. Au kilomètre, nous ne recouvrons rien là-bas. On n'a même pas la même mise sur le réseau qui se trouve dans ce secteur. Aujourd'hui, la Banque mondiale a pu mettre en place plus de 3600 branchements sociaux. L'Union européenne, à travers l'UNICEF, a mis en place 1000 branchements sociaux. Les matériels sont disponibles au niveau de la SODECA. Et le Fonds saoudien est aussi en train de mettre en place également 1000 branchements sociaux. Pourquoi ? Parce qu'on a senti qu'à un certain moment, nos frères et nos sœurs, vous savez que l'eau, c'est la dignité. Quand tu as l'eau potable chez toi, tu sors beau.
L'eau, donc, c'est la vie, l'eau, c'est la santé.
Oui, c'est la dignité. Pour moi, je pense que la dignité du Centrafricain réside dans l'eau.
Mais donc, sur ce point, lorsque j'écoutais tout à l'heure le directeur général de l'ENECA parle de dons de la Banque mondiale, vous aussi, Banque mondiale, FMI.
Mais l'État centrafricain, que donne le budget centrafricain ?
Que fait le gouvernement dans ce sens ?
C'est pas possible.
Mais j'abonde. Parce que
quelle est notre part de responsabilité d'ailleurs ?
L'État centrafricain n'est pas en marge de tout ce qui se passe. Je pense que l'État centrafricain avait rédiger un schéma directeur du Grand Bangui. Le schéma directeur du Grand Bangui consiste à maintenant créer un nouveau réseau qui est un nouveau réseau. Et les Chinois ont bouclé déjà, je vous en prie. Les Chinois ont déjà bouclé cette étude. Et l'étude, aujourd'hui, est chiffrée à plus de 500 milliards de francs CFA pour qu'on reprenne le réseau.
Et 500 milliards, est-ce qu'on est incapable
J'en viens, puisque l'étude a été bouclée. L'étude a été bouclée, nous avons déjà le plan du Grand Bangui. Grand Bangui, ça veut dire qu'il faut tenir compte des quartiers de la périphérie. Aujourd'hui, les quartiers ne font que ça. La Bangui s'étend beaucoup plus vers la périphérie.
Mais non seulement ça, l'eau de ce décan n'arrive pas même à Gobongo, vers Pekanef. Ça s'arrête juste là au niveau des quartiers.
C'est ça que j'en viens.
Même pas Pekadis, même pas Pekanef.
Le quartier plateau, tout proche d'ici, à 7 km.
Il n'y a pas d'eau.
J'en viens, je suis en train.
Le quartier plateau.
J'en viens, s'il vous plaît, honorable. Donc, en plus de ça, nous avons aussi, pour l'instant, l'État est en train d'activer un autre plan qui consiste à créer une unité compacte. Nous avons au niveau de la SODECA deux unités.
Et ça, c'est pour quand ?
C'est maintenant, parce qu'ils ont déjà passé, c'est le fonds saoudien, on a déjà attribué le marché à Tragedel, qui était en charge de mise en œuvre de trucs de panneaux solaires dans la ville de Bangui, l'éclairage public solaire dans la ville de Bangui. Donc maintenant, le marché aurait été déjà passé. Donc nous maintenant, on est en train de créer ce qu'on appelle une unité compacte pour pallier aux déficits d'eau dans la ville. Donc ce truc-là, pour l'instant, nous avons une unité qu'on appelle U600 et U900 qui font 1500. Donc nous voudrons créer
ça, ça nous semble dans les perspectives. En écoutant tout à l'heure monsieur le directeur général de l'ENECA, c'est dans les perspectives, mais on parle du plan B, parce que est-ce que vous disposez d'aujourd'hui d'un plan B pour pallier si la même situation qui arrive à l'ENECA vous arrive, est-ce que vous allez vraiment résoudre rapidement?
Mais la SODECA aussi a vécu ça en d'autres temps.
Ouais, mais je pense que maintenant le plan B pour la SODECA, on avait un gap en
quelques secondes.
Oui, on avait un gap en termes de KVA au niveau du bord du fleuve. Et puisque la MINUSCA nous a remis un générateur de 500 KVA, je pense maintenant que notre souci était de refouler le vers les quartiers en hauteur. Mais puisqu'on a reçu le générateur, l'handicap qui pourrait en tout cas survenir, c'est le carburant. Mais si on a le carburant, on pourrait couvrir la ville de Bangui en toute quiétude.
Monsieur Denouga, quelques secondes.
Un DG, s'il vous plaît. Le barrage de Mbali 2.
Boili 3.
Boili 3. Oui.
on a prévu des turbines là.
Oui.
On a même prévu les grues, la grue pour descendre et remonter les turbines.
Oui.
Mais et qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de turbines là?
Qu'est-ce qui bloque?
Parce que quand la Sodeca dépend de vous pour consommer l'énergie, quand j'entends le DG parler de groupe de ceci, de carburant, nous revenons vers vous parce que c'est comme si vous êtes en quelque sorte un peu l'alpha et l'oméga parce que la Sodeca dépend de vous. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces deux emplacements-là? Et quand j'entends l'ENERCA parler d'énergie solaire, un pays qui a un aussi grand et vaste réseau hydroélectrique avec les deux cuvettes du Congo et avec tout ce que nous avons comme chute d'eau et l'électricité hydroélectrique, c'est l'électricité la moins chère. Dès qu'on installe les turbines, on a l'électricité gratuitement. Pourquoi allons chercher les panneaux solaires comme si on était un pays désertique? Nous devons vendre l'énergie. Ça, c'est le gouvernement et l'ENERCA.
Oui, je vais vous donner les réponses. Quelque je pense que l'équipement de Boili 3 avait démarré en 2011. Et on a eu la crise de 2012 où on a tout cassé. Vous en parliez. On a tout cassé. Aujourd'hui, il faut reprendre tout ce projet. On va accuser ENERCA, on va accuser... Mais c'est les Centrafricains qui ont cassé. Donc, on est aussi responsable de ce qui se passe. Le projet Boili 3 nous aurait déjà, en 2012, permis d'avoir le poste de Sakai et d'augmenter la capacité d'alimentation en électricité de Bangui.
Mais pour construire une nouvelle centrale hydroélectrique, ça coûte combien, par exemple, à l'état centrafricain?
Il y a pas mal de machines maintenant qui sont moins chères. Sur la Lobaye, même les cours d'eau qui...
Ce sont des solutions clés en main.
Et qui sont
pas des solutions durables. Quand on prend des conteneurs de groupe, on installe, vous voyez que c'est pas de ça dont on parle. Si on veut avoir de l'énergie pour l'industrialisation, là il faut développer des aménagements comme on a fait à Boili 2, où on a des ouvrages de dérivation.
Et ma question tout à l'heure,
la Lobaye, les études sont terminées, il nous faut 250 à 300 milliards pour réaliser ça.
Et ça, est-ce que ça nous manque aujourd'hui?
Vous me posez la question, je sais qu'en Centrafrique, on peut se mobiliser, même si on n'a pas, mais on peut mettre une partie et mobiliser les autres partenaires pour nous accompagner.
Avant de poursuivre
Je suis très heureux parce qu'on va démarrer une nouvelle législature et on a un député qui est là, qui va décider des allocations de ressources demain.
Je vous en prie, on court par rapport au temps qui nous est imparti pour le débat, mais je reviens vers vous, puisque vous deux, avant d'écouter les avis des Centrafricains, vous avez parlé d'électricité, du carburant. Est-ce que vous payez le carburant au sein, je ne sais pas, à Bangui avec le même prix que nous autres? C'est ça qui vous pose un problème ou bien?
Vous payez au prix de la pompe, non? On est des exploitants, on paye au prix de la pompe.
Mais lorsqu'on parle de l'ENERCA et de Sodeca, on parle de Bangui. Mais ces deux entreprises-là ont des unités à l'intérieur du pays. Ce ne sont pas seulement les Centrafricains de Bangui, mais de la République Centrafricaine.
Nous allons, comme l'a dit, que cette crise sociale impacte sur le quotidien des Centrafricains, colère et inquiétude.
S'il vous plaît, cette crise-là peut être aussi un moteur pour nous emmener à changer. Et on ne va pas toujours larmoyer déçu. Et beaucoup de pays ont été complètement détruits. Et ces pays-là se sont rapidement reconstruits. Mais c'est que les Centrafricains n'ont pas cette capacité, n'ont pas ce génie.
Les consommateurs, M. Bindunga, ne cachent pas aussi les ras-le-bol. Voici quelques avis recueillis dans les rues de la capitale. Nous les écoutons.
Oui, nous aussi, on se plaint, surtout au niveau universitaire, parce que ça cause vraiment des problèmes. Et si nous voyons dans les hôpitaux, on voit que les gens ne sont pas prêts à faire sortir les morts dans les morts. Et maintenant, on voit que beaucoup de gens se plaignent pour le Sodeca là. Bon, on sait vraiment quoi dire parce que je vois que ce sont des problèmes qui se répètent cycliquement.
Vraiment, c'est regrettable parce que un pays qui est vraiment comme la RCA ne devait pas avoir manque ou bien constater ce manque d'eau et de l'électricité parce que nous disposons naturellement des sources. Par exemple, la rivière qui traverse notre capitale, Bangui. Ça, c'est déjà une source qui devait alimenter la capitale si le gouvernement avait mis en place des dispositions telles que les moyens, les outils qui pouvaient prendre, conduire à la source et retraiter et dispatcher à la population, contacter les partenaires, monter un projet pour libérer la population, le pays dans cette situation-là.
Parce que sans l'électricité ou bien sans une source d'énergie, un pays ne peut pas se développer. Par exemple, les États-Unis, des grandes puissances, ils ont de l'électricité. Tout ce qui se passe dans le pays a une source d'énergie. Donc, on ne peut pas supporter une coupure d'électricité pendant même une seconde, ce n'est pas faisable. Bon, prenons le cas de notre pays, nous avons beaucoup de problèmes dans ce pays-là. Donc ça fait que notre source d'énergie n'a pas une grande capacité pour nous fournir d'électricité. Donc on joue avec les moyens de bord.
Donc c'est sûrement ça.
C'est un fait exprès.
On peut accuser premièrement le gouvernement parce que c'est une partie de ses responsabilités.
Parce qu'un grand pays comme ça, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, ça c'est pas bien. C'est dans ce cas-là comment le pays va évoluer. Quand est-ce qu'on va évoluer avec ce rythme-là? Des imprévus, on devait programmer ça avant tout. Mais brusquement comme ça, on dit qu'il y a problème d'eau, problème d'électricité. Ce n'est pas uniquement à Bangui, mais c'est sur l'étendue du territoire de la RCA. Ça c'est pas bon, ça c'est un fait exprès. Je ferai de mon mieux pour qu'il n'y aura pas ce problème-là. Si je suis, par exemple, directrice de la Sodeca ou soit présidente, je ferai de mon mieux.
Vraiment, ça joue sur l'économie du pays. Les gens souffrent un peu partout. Pour avoir de l'eau, non, c'est tellement difficile.
S'il n'y a pas d'eau potable, on risque d'avoir aussi des maladies et autres.
Il y a la prévision que eux, au niveau de Sodeca, on devait le faire. Mais alors, pour Sodeca, ça fait plus de 3 à 4 ans. Et l'ENERCA, on a déjà vécu une semaine qui vont épuiser pour rien.
Ça, ça relève de la compétence du gouvernement, mais on ne sait pas pourquoi le gouvernement n'investit pas dans ce projet. Et maintenant, les populations souffrent, les consommateurs souffrent. Nous aussi, nous souffrons, tout le monde souffre, et cela joue négativement sur le pays.
Voilà, ce sont les avis des Centrafricains, messieurs les directeurs généraux. Vous avez compris que le ras-le-bol, il est généralisé. Et donc, sur ce point, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour vraiment pallier aux problèmes ou aux difficultés rencontrées sur le terrain, tant par vous et par la population?
Oui, je pense qu'en tant qu'opérateur de réseau, notre rôle n'est pas d'empêcher nos clients ou bien la population d'avoir accès. Je pense que l'effort à faire aujourd'hui, c'est déjà de remettre ces infrastructures, même si elles sont vieilles en place, mais de faire beaucoup d'efforts pour investir. Parce que tant qu'on ne va pas investir dans ce secteur, on ne sortira pas. On passera nos temps peut-être à nous invectiver, on ne trouvera pas de réponse.
Ce sont des investissements lourds.
Il faut qu'on soit conscient. Quand tout le monde se plaint, on va peut-être prendre 300-400 milliards pour mettre dans l'énergie et que peut-être dans la santé, il n'y en aura pas assez. Peut-être il ne faut pas encore qu'on se plaigne du fait que... Donc, on a plusieurs urgences dans le pays. Comment on peut réfléchir pour optimiser les interventions afin que progressivement sortent de ça. Mais aussi, ce qu'il faut relever, c'est que quand on parle de ces secteurs, on pense que c'est des actions immédiates. C'est des actions dont la mise en œuvre peut durer 3, 4, 5, 10 ans. Quand on parle du développement d'hydroélectricité, ça peut prendre 3 à 4 ans avant qu'on ait le premier kilowattheure. Mais toutes les phases d'études peuvent durer 2 ans même avant de démarrer. Donc, vous voyez que...
Mais j'ai l'impression que nous parlons que de Bangui, hein, mais nous ne touchons pas à Berbatine. Est-ce que vos projets touchent la République?
Si vous avez suivi ces derniers temps, on a lancé des projets à Berbératie, et à Bambari et à Berbératie. Donc, ces interventions ne concernent pas Bangui. Et c'est peut-être pour ça aussi que je reviens vers Karl. Ce que nous vivons à Bangui, ou nous avons vécu à Bangui, c'est... cette dernière semaine, c'est ce que nos compatriotes vivent dans l'ensemble du pays. Il faut qu'on en soit conscient et qu'on se mette au travail. Ce n'est que par le travail et le travail seul qu'on parviendra.
Quelques secondes à vous, monsieur Bélandombi, au niveau de la Sodeca. On ne parle pas de Bangui, hein, on parle de toute l'étendue du territoire, de Damdafok, de Bebozoum et bien d'autres villes. Est-ce que vos alternatives prennent en compte toute l'étendue du territoire centrafricain?
Comme je vous ai souligné ici, la pays a connu une crise profonde, surtout à l'intérieur du pays, où les stations d'eau ont été saccagées. Donc, notre priorité était d'abord de faire en sorte de réhabiliter ces réseaux qui étaient saccagés. Je vous donne l'exemple de Bozoum. Plus de 14 ans, aucune goutte d'eau n'était possible à Bozoum. Mais aujourd'hui, c'est possible. Parce qu'on s'est dit, ceux qui vivent là-bas sont des Centrafricains. On a mobilisé des moyens pour aller reprendre ce réseau-là. On a acheté un générateur, on a installé. Aujourd'hui, l'eau est possible, au coule à Bozoum.
Et qu'en est-il pour Ndélé?
Ndélé, oui, Ndélé, effectivement, il y a de l'eau là-bas. Mais Ndélé, sa chance est que le réseau est gravitaire. C'est une source d'eau qui a été aménagée par les Danois à l'époque. Ndélé et Carnot, les réseaux sont gravitaires. Donc, ils n'ont pas besoin suffisamment d'énergie pour tourner. Donc, le chef centre qui est là-bas pour des raisons de sécurité, il se retrouve ici à Bangui, mais son agent continue toujours à fournir de l'eau en délai.
Voilà, pour des raisons de temps que nous a imparti, écoutons le président Touadéra sur les perspectives d'avenir en matière d'eau et d'électricité pour son second quinquennat.
Nous allons développer le potentiel hydroénergétique, solaire et de biomasse afin d'accroître l'électrification des zones rurales, mais aussi urbaines, régler durablement le problème d'accès à l'électricité et d'accélérer le développement des projets structurants. C'est dans cette perspective que des efforts seront déployés pour réaliser les études de faisabilité d'importants sites de la Lobaye, de Dimoli, Palambo et de l'Ancreno et mobiliser des partenaires pour leur construction. Il est à noter que plusieurs projets entrepris au cours du premier quinquennat seront rendus fonctionnels avant le premier trimestre 2022 afin de juguler les délestages. Nous poursuivrons l'amélioration des services sociaux de base en continuant à donner de l'eau potable à la population par la réalisation des forages sur l'ensemble du territoire et la sécurisation des installations de la SODECA, tant à Bangui que dans l'arrière-pays.
Voilà, c'était donc le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, sur Radio Ndeke Luka et dans le débat politique. Monsieur Joseph Bindonga, voilà, quelques réponses préconisées par le chef de l'État par rapport à vos inquiétudes ou bien à vos difficultés d'avoir d'eau potable et l'électricité dans le pays.
Armando, je reste sur ma faim parce que les discours politiques, il y a entre le discours politique et l'exécution, une très grande fossée. Je pense que M. Touadéra a déjà promis aux Centrafricains un grand champ de panneaux solaires qui n'a même pas démarré, les travaux n'ont même pas démarré, et à la fin de son mandat, rapidement, on a emmené les engins pour les... Et aussi, la solution de l'électricité en Centrafrique, ce n'est pas les panneaux solaires, parce que d'abord leur entretien, le remplacement des batteries qui coûtent excessivement cher, nous avons rien que les deux turbines à Boali, automatiquement, Bangui n'aura pas assez de problèmes. Et s'il a parlé de l'Ancreno, tout ça, ça ce sont des vieux projets qui datent des années wow, comme le disent les anciens combattants, et que je ne pense pas...
Mais oui, mais si ce sont des anciens projets et que s'il a pensé renouveler cela, c'est une bonne chose quand même.
Écoutez, vous savez, je connais ce pays-là, je connais l'homme centrafricain, on va voir, qu'est-ce qui sera fait et qu'est-ce qui ne sera pas fait. On nous a dit 2022... 2021, déjà, on a déjà épuisé le premier trimestre. Donc, écoutez, je reste sur ma faim et que M. Touadéra ne fera pas ça.
Oui, M. Karl Blagué, sur ce point, l'extrait du discours du président de la République, quel commentaire faites-vous de cela?
Effectivement, ça, c'est un idéal. Mais au niveau du fond, je sens que ce discours manque de vision prospective. Ça ne tient pas compte de la réalité. Est-ce qu'il a pu dégager le budget pour financer tous ces projets? Il dit jusqu'au premier trimestre 2022. On nous l'avait déjà fait chanter en 2017-2018 par rapport à Boali 2 ou Boali 3, quand les Chinois étaient allés inaugurer une turbine là-bas.
Et le champ
On nous avait promis que les délestages allaient baisser. On n'a pas vu ça. S'il vous plaît.
Donc vous êtes pessimiste. Hein.
Très pessimiste. Je reste sur ma faim et sur ma soif. Et j'espère. Parce que je suis un observateur. Je me base sur les faits. Rien que cet événement, j'espère que ça va se terminer. D'une semaine, vous avez vu les dégâts? Imaginez que ça perdure ou que ça reprenne d'ici une semaine. Vous voyez les dégâts? Vous voulez que... Bon, moi, je me dis, peut-être que le ministre de l'Énergie veut la chute du chef de l'État, parce que dans d'autres pays, le peuple, la population se serait déjà soulevé. Et on voyait même le ministère de l'Énergie. C'est dommage, je n'ai pas vu mes amis du GTSC et autres. Mais c'était le moment, justement. C'est bien beau d'envoyer des enfants protester devant des institutions onusiennes et autres, mais pour des faits sociaux, personne.
On distribue à ces enfants de là 2500 des sachets d'eau.
C'est pas ça le sujet.
Oui, donc, quelques secondes. Je pense qu'il faudrait que les responsabilités soient assumées, et je pense que le ministère de l'Énergie dont on assumait la totalité.
30 secondes à vous deux, hein, chacun, 30 secondes. Monsieur le directeur général de la SODECA, pourquoi le gouvernement et votre institution communiquent peu sur cette situation, sur cette crise, manque d'eau, manque d'électricité? Le problème, c'est quoi à ce niveau?
Bon, moi je serais
mais,
bien
mais
classé.
Ils sont pas là. Ce sont les ministres.
Mais est-ce que vous me permettez qu'ils répondent parce qu'ils savent qu'ils ont aussi une manière de communiquer à la population. On vous accuse de communiquer peu sur la situation et surtout la situation que nous vivons actuellement.
Je pense à mon humble avis qu'à ce niveau, nous en tant que responsables au niveau des entreprises, on a suffisamment communiqué sur la situation. Je pense que sur toutes les ondes, on n'entend que parler de l'eau. Parce que le directeur général a pris les taureaux par les cornes pour informer les Centrafricains des difficultés qu'il aurait rencontrées. Et ça, on l'a fait. Mais le côté politique, nous, on ne fait pas la politique. Nous sommes des techniciens.
Vous êtes des techniciens en même temps de politique, temps, hein, parce que vous faites la politique nous sommes pour développer votre secteur. Là.
Nous ne faisons pas la politique. Nous sommes là pour défendre la cause de nos soeurs et nos soeurs, de nos frères, pour qu'ils aient de l'eau potable.
Oui, mais la direction générale a informé des difficultés qui sont rencontrées et de ce qui se fait pour rétablir. Maintenant, si cette communication n'est pas suffisante, bon, on prend bonne note de la nécessité de communiquer.
Vous avez
et de dire peut-être plus à la population de ce qui se passe, mais je pense qu'on a
une question. Vous avez parlé de la ligne numéro 1 rétablie, mais qu'en est-il pour la ligne numéro 2? Pour combien de temps?
La ligne numéro 2, je pense que ça prend. Là, on a trois pylônes qui sont des pylônes de très haut, de très grande hauteur. On n'a pas moins d'un mois pour rétablir ça. Donc,
on parle de 6 mois, c'est ça?
Non, pas 6 mois. 4
mois? 2 mois?
Alors, vous aurez le détail tout à l'heure.
Mais donc, ça veut dire qu'on n'a pas encore résolu d'une manière définitive la crise que nous avons connue.
Mais est-ce que la communication, c'est la réponse au problème?
Non, je vous pose une question.
Mais la question, j'y réponds, j'ai dit, on a communiqué pour informer.
Puisqu'on a rétabli la ligne numéro 1.
Mais on a précisé qu'on a rétabli la ligne numéro 1 qui nous permet d'avoir 65% de la production hydroélectrique. Et nos équipes vont travailler sur la ligne numéro 2.
Et ça, c'est suffisant pour durer un mois, deux mois ou trois mois
mais
avant d'établir la ligne 3.
Je ne suis pas ce technicien qui travaille. Vous me demandez une réponse technique que je n'ai pas. Je vais vous communiquer ça le moment venu.
D'accord.
Parce que pour réparer la ligne, il nous faut du matériel qu'on n'a pas.
Et ça
donc,
va,
il y a
ça
le
va
délai
durer.
D'approvisionnement qu'il faut intégrer d'abord avant de...
Mais ça va durer.
Mais DG, ce sont des cornières que vous ajustez.
Ce sont des cornières qui ont des traitements de surface spécifiques.
Voilà. Mais pourquoi vous n'en avez pas en stock? Parce qu'il y a ce minimum. Quand on gère un réseau comme ça, on doit avoir quand même un minimum de matériel en réserve.
Ce minimum est l'équivalent d'un pylône.
Bon.
Mais on en a trois qui sont tombés.
On parle du stock, est-ce que vous en avez?
Oui. On a un minimum, mais c'est pour réparer un pylône, pas trois en même temps.
Donc, s'il vous plaît.
Ça qu'on a besoin d'un complément de matériel.
Je n'ai pas encore fini. Monsieur le DG, je vous ai entendu dire de très bonnes choses ici, qu'il y a l'autre là, des branchements sociaux dans ma zone, un peu partout dans les périphéries. Alors, est-ce que ça va tomber quand? Parce que l'eau, là-bas, moi, je me lave avec l'eau de fuie. Hein. On va avec le seau, avec la corde, et puis on tire, et puis après... Voilà, c'est précisément Bimbo 3. Hein.
Non, on parle de Bangui.
Je parle général. Mais vous savez. J'essaie de voir parce que, quand même, ma population qui m'a élu, attend l'eau. Le DG de l'ENERCA avait fait un petit effort.
Ça veut dire que vous commencez le plaidoyer.
Il y a eu un petit branchement social et puis on attend la suite. Mais moi, je lui ai adressé une longue liste.
S'il vous plaît, on
juste
le temps, monsieur Benouga. Voilà, monsieur le DG, vous pouvez répondre parce que le député commence déjà le plaidoyer pour sa population.
Mais effectivement, ces branchements concernent beaucoup plus les limites régaliennes de la SODECA. Donc, le 3e arrondissement et le 5e arrondissement, je pense que les matériels sont déjà disponibles. Donc, on attend les moyens de mise en œuvre. Donc, on est en train de recruter un cabinet de communication qui ira dans la zone pour sensibiliser les uns et les autres à la nécessité de se brancher sur le réseau de la SODECA. Nous avons aussi le matériel de réparation de fuite. On va reprendre les anciennes conduites qui ont été saccagées pour qu'au moins il y ait fluidité de l'eau dans cette zone.
Donc nous, Bimbo 3, nous sommes exclus. C'est le kilomètre 5.
On ne vous a pas exclu, mon honorable.
Sur les questions de projet, je pense qu'il y a deux éléments. Les projets qui sont en cours, dont on a toujours parlé, Boili 2, ça va finir. La centrale thermique, les essais ont démarré aujourd'hui. Les deux centrales solaires, elles vont être mises en service. Et ça, nous, on travaille sur ces sujets et on peut vous confirmer que ça se fera. Mais est-ce que ça suffira pour satisfaire les besoins de Bangui? Non. les besoins de Bangui sont énormes. Et aujourd'hui, même quand on a fait les hypothèses d'études pour ces centrales, vous voyez qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, qui ne s'annoncent pas, mais qui ont besoin d'électricité pour leur activité. Voilà. Donc, ça ne sera pas suffisant, d'où la nécessité, effectivement, de passer à ces projets structurants. Autre chose, la difficulté d'investissement chez nous est liée au fait que les hypothèses d'études sont basées sur la consommation des ménages. Il n'y a pas de besoin industriel. Ce sont les besoins industriels qui permettent de mettre en œuvre ces gros investissements. Mais si on n'a pas d'industrie, vous pensez qu'on peut investir des milliards pour les ménages? Ça va être difficile.
Mais ça, c'est encore une autre réflexion, mais ça fera l'objet d'un autre sujet, d'un autre débat prochainement. Et c'est la fin de ce débat politique d'aujourd'hui. Vous le savez très bien, nous l'avions consacré au manque d'eau potable et d'électricité en République centrafricaine et beaucoup plus à Bangui ces derniers temps. Merci pour votre participation, messieurs, autour de cette table. Merci à vous, monsieur Karl Blaguet, pour votre participation, effectivement.
Merci à vous, Armando.
Merci à Joseph Bendunga. Vous êtes député de la Nation, membre de l'opposition démocratique, pour votre participation.
Merci, Armando, et merci à mes co-débatteurs.
Merci aussi à vous, Christophe Priva Bélandoumbi, directeur général de la société de distribution d'eau en Centrafrique, SODECA.
Merci, monsieur Armando.
Merci d'avoir pris part aussi ce rendez-vous, monsieur Thierry Patient Bendimont, directeur de l'ENERCA.
Merci, Armando.
La partie technique était assurée par Diane Stéphanie Bokula, Armando Nguindi. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Au revoir.